mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Louis. Bonjour aux auditeurs. Quel sera donc notre sujet cette semaine ?
Nous pourrions parler de crise.
Le sujet est bien vaste. Depuis quelques décennies, nous n'entendons plus que cela. Crise économique, crise sociale, crise environnementale, crise géopolitique, financière, migratoire, éthique, etc. Ne crains-tu pas que nous nous égarions ?
Justement, pour éviter que nous nous égarions, je te propose de nous en tenir à une crise particulière qui touche principalement les sociétés occidentales. Il se pourrait même qu'elle se situe en amont de toutes les autres crises que tu énumères.
De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de la crise que le père Teilhard de Chardin a pointée dans son livre « L'énergie humaine » en 1962. Il l'exprime sous forme de la question suivante. À quelle époque la crise a-t-elle été plus violente entre le goût et le dégoût de la vie ?
Goût et dégoût de la vie ? C'est une crise morale, une crise métaphysique. C'est la crise du découragement, du manque d'espérance. À quoi bon vivre ?
C'est exactement ça. Nous vivons dans des sociétés où la sécurité, le confort, le bien-être, les moyens de se développer n'ont jamais été aussi poussés. On pouvait s'attendre à y trouver le bonheur. Et pourtant, les symptômes du mal de vivre s'accumulent. Utilisation massive des antidépresseurs, difficultés à communiquer avec les autres, stress, peur, la surabondance des psychologues, conseillers et ouvrages de développement personnel en est également le signe.
Comment pouvons-nous faire intervenir René Girard et son anthropologie dans toute cette affaire ?
C'est assez facile. Le dégoût de la vie, pour reprendre la formulation du père Teilhard, n'est rien d'autre qu'un manque de désir. Plus rien ne nous motive, plus rien ne nous fait envie. Le vocabulaire théologique nomme cet état « assédie » et en fait l'un des 7 péchés capitaux, souvent limité à la paresse, par erreur, car l'assédie est un mal bien plus profond. Mais restons côté Girard, et voyons là comme une crise du désir, un manque de désir.
Aborder la question sous l'angle girardien va-t-il nous aider à mieux la comprendre ou même lui trouver des solutions ?
L'anthropologie de René Girard repose sur l'idée que les désirs ne naissent pas spontanément en nous, mais qu'ils nous viennent par mimétisme à l'égard d'un modèle. Tel adolescent va désirer devenir alpiniste au vu des exploits des grands noms de la montagne. Tel autre va vouloir devenir instituteur parce qu'il a admiré l'un de ses maîtres d'école, etc. C'est le mécanisme fondamental dans la vision de Girard. Comment alors se traduit ce que nous avons diagnostiqué dans nos sociétés, c'est-à-dire ce manque de désir, ce dégoût de la vie, pour reprendre le terme de Teilhard de Chardin? L'anthropologie de Girard nous propose une réponse. S'il n'y a plus de désir, c'est qu'il n'y a plus de modèle pour en inspirer. Autrement dit, cette crise du désir est une crise des modèles. Comprendre cette crise du désir, cette assédie qui frappe la société dans son ensemble, c'est donc comprendre pourquoi plus personne n'incarne de modèle, pourquoi plus personne n'inspire à quiconque l'envie de lui ressembler.
Et quelle en est la raison ?
Le mimétisme commence par l'admiration. Si plus personne n'inspire à quiconque l'envie de lui ressembler, c'est que plus personne ne suscite d'admiration, plus personne ne présente un prestige suffisant pour inspirer l'idée de l'imiter.
N'est-ce pas simplement dû à un déficit, peut-être passager, de personnalité, de grande envergure ?
Je ne crois pas. Bien sûr, les héros peuvent servir de modèle, mais ce ne sont pas les seuls possibles, bien au contraire. Pour un enfant, ses parents sont tout naturellement des modèles au sens de Girard. Ses instituteurs, puis ses professeurs également. Plus tard, des collègues, des dirigeants, des amis ou des conseillers pourront jouer ce rôle. Même si l'actualité n'offre pas de héros particuliers, toutes ces personnes du quotidien peuvent déclencher le mimétisme et inspirer l'idée de leur ressembler, tout au moins de les prendre comme modèle pour tel ou tel aspect de l'existence. Or, depuis quelques décennies, nous assistons à un dénigrement systématique, une dévalorisation de tous ceux susceptibles de jouer le rôle de modèle. Dès lors, l'admiration disparaît et l'éveil des désirs, des vocations pour mieux dire, ne se produit plus. Le rôle traditionnel du père est d'incarner la stature de l'adulte de façon à donner envie à l'enfant de dépasser son enfance. Au lieu de cela, il n'a plus droit qu'à être une maman bis ou un copain. Le rôle traditionnel de la mère est également contesté. Une femme ne peut désormais s'épanouir qu'en dehors du foyer. Les professeurs ont perdu tout prestige et parfois même le simple respect. Toutes les professions incarnant l'autorité n'ont plus guère d'aura, car l'idée même d'autorité est contestée à la racine. L'entrepreneur n'est plus acceptable que sous la forme de patron de start-up qui doit être cool et branché. La réussite, la richesse, inspirent davantage la jalousie que l'émulation. La science elle-même, qui depuis la Renaissance conférait le prestige à ses détenteurs, est désormais ignorée, si ce n'est soupçonnée.
D'où vient ce mouvement général de discrédit ?
Dans ce discrédit, il semble que le relativisme joue un rôle prépondérant. Nous avons déjà évoqué à quel point cette doctrine influence les sociétés occidentales. Et René Girard en était un farouche adversaire. Souvenons-nous, le relativisme professe qu'aucun phénomène n'a de valeur en soi. Toute hiérarchie est donc forcément arbitraire. Nul ne doit être au-dessus des autres. Or, par définition, un modèle au sens de Girard est quelqu'un qui inspire de l'admiration. Il présente donc une forme de supériorité, par le courage chez le héros, par le savoir chez un scientifique, par le charisme dans le cas d'un dirigeant, par le génie pour un artiste, par l'amour de l'humanité avec des charitables comme Saint Vincent de Paul ou l'abbé Pierre, etc. L'existence de telle supériorité est odieuse à la doctrine relativiste, puisqu'elle ruine son principe même. C'est pourquoi cette doctrine n'a de cesse d'attaquer toutes les manifestations de cette nature. Ces attaques sont faites de dénigrement. Elles s'appuient sur l'envie, qui est une perversion du sentiment d'admiration. Romans et cinéma célèbrent le culte de l'anti-héros. La lâcheté est présentée comme supérieure au courage. Les savants sont contestés. Tout progrès scientifique est présenté comme une menace. Les dirigeants se retrouvent avec la réputation de n'accéder au pouvoir que par la corruption. Le rap et les tags se voient attribuer autant de valeur que Beethoven et Velázquez. Les êtres de charité sont dénoncés comme des hypocrites, uniquement mus par la recherche d'une réputation flatteuse. Voilà le relativisme en action. Il s'agit de répandre le soupçon, la suspicion, sur tout ce qui se distingue, tout ce qui élève. La vision relativiste, c'est l'indifférenciation, la non-hiérarchisation systématique, l'égalité absolue. Pas question de voir apparaître des personnes qui puissent servir de modèle pour les autres.
Cependant, il se trouve encore des personnes qui suscitent admiration et même l'adulation du public.
Oui, mais qui sont-ils ? Depuis des décennies, par exemple, le classement des personnalités préférées des Français se partage entre des chanteurs, des sportifs et des acteurs de cinéma. Des personnes estimables, certes, mais dont l'exemple est un peu court pour inspirer le sens de l'existence. Où sont les savants, les explorateurs, les philosophes, les hommes de foi, les grands dirigeants ?
L'anthropologie de René Girard donne-t-elle des pistes pour nous sortir de ce dégoût de la vie ?
Elle ne donne pas de recettes magiques, mais elle nous propose des prises de conscience que nous pouvons mettre à profit pour nous sortir de la sédie. D'abord, elle nous enseigne à reconnaître en nous le phénomène du mimétisme et à l'accepter. L'obsession actuelle de l'originalité à tout prix est un piège, car nous avons besoin de modèles pour nous définir petit à petit. Et tous les récuser a priori ne nous aident pas. La deuxième chose qu'elle nous enseigne, c'est de nous méfier des spirales de rivalité mimétique. Or, celles-ci se nourrissent d'une trop grande proximité. Souvent, souligner nos ressemblances ne fait qu'exaspérer les tensions. La troisième chose que nous apporte René Girard quant à cette crise du désir, c'est une palette d'arguments contre le relativisme, qui est, nous l'avons vu, le principal vecteur de la mise à bas de tout ce qui pourrait susciter l'admiration, donc le mimétisme.
Gérard réhabilite également le christianisme.
En effet, Jésus nous dit « Imitez-moi comme j'imite le Père ». Nous ne pouvons imiter Dieu, mais nous pouvons imiter Dieu incarné dans un homme. C'est le modèle des modèles.
C'est aussi le plus exigeant. Notre émission arrive à son terme, Jean-Louis. Il est temps de saluer les auditeurs.
Au revoir Catherine. Merci aux auditeurs de leur fidélité.